Bienvenue dans votre émission internationale. Nous sommes sur le plateau de TV5 Monde avec RFI, le journal Le Monde. Très heureuse de vous retrouver. L'an dernier, 20 attentats ont été déjoués sur le sol français, deux depuis le début de cette année. La menace terroriste ne faiblit pas en France et en Europe. Pour contenir cette menace, au-delà du travail des services de renseignement, de police, il existe un volet prévention. Lutter contre la radicalisation à l'école, mais aussi par exemple dans les prisons, les clubs de sport. En France, des mesures ont été prises ces dernières années, mais elles n'ont pas toujours été très efficaces. Il y a un peu plus de deux semaines, un nouveau plan a été présenté par le Premier ministre Édouard Philippe. Et c'est Muriel Domenac, chef d'orchestre des 60 mesures mises en œuvre dans ce dispositif national, qui est notre invité. Mais avant de l'accueillir, un extrait d'un sketch diffusé sur la chaîne britannique BBC, une parodie d'une série américaine. Elle met en scène de riches femmes au foyer, au cœur de leurs préoccupations problème de cœur et tenue vestimentaire. Mais dans ce billet d'humour, les Américaines ont été remplacées par des femmes de djihadistes. Extrait.
Bienvenue dans les vraies femmes au foyer de Daesh.
La décapitation est dans 3 jours et je ne sais toujours pas ce que je vais porter.
Abdul m'a séduite en ligne. Il m'a convaincue en me parlant de la sécurité sociale gratuite.
J'en suis à mon 6e mariage. J'ai déjà été veuve 5 fois.
6 fois.
Je suis tellement ravie d'avoir déménagé ici. C'est exactement comme ce que les gars sur le chat m'ont dit. Et il y a tellement de belles surprises.
Ah, j'allais pas faire ça à Birmingham.
Dans l'épisode de la semaine prochaine...
Il arrête pas de parler de ses 40 vierges. Pourquoi il ne peut pas être heureux avec moi?
À l'image d'une nouvelle chaîne qui fait presque 2,5 mètres de longueur. Comme ça, je pourrais presque sortir. C'est fou.
Bonjour Muriel Domenac. Depuis un peu moins de 2 ans, vous êtes secrétaire générale du comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation, le CIPDR, qui est rattaché auprès du Premier ministre. Alors, ce clip de la BBC a été vu par plus de 20 millions d'internautes. Il a suscité beaucoup de commentaires. Certains ont dénoncé un humour trop corrosif. Vous, est-ce que vous trouvez que ce type d'humour est une arme efficace contre la propagande djihadiste? Est-ce que, déjà, ça vous fait sourire, ce genre de sketch?
Ça me fait sourire, d'abord parce que c'est drôle. Ensuite, parce que c'est vrai, pourquoi 40 vierges, qu'est-ce que c'est que ces fantasmes? Et puis, parce que ça aide à déconstruire le discours djihadiste dont on sait le mal qu'il a fait et le mal qu'il peut encore faire. Donc oui, le contre-discours face à la propagande djihadiste est essentiel.
Et
l'humour fait partie des armes... C'est même une arme de prévention massive, donc c'est évidemment à utiliser pour déconstruire, pour délégitimer le discours djihadiste. Moi, je trouve que c'est excellent.
Alors, avant de poursuivre cet entretien, un bref rappel de Bastien Bory et Benoît Tricot sur la question de la radicalisation en France. On regarde, on écoute.
Mohamed Merah, tueur de Toulouse en 2012. Mehdi Nemouch, assaillant du musée juif de Bruxelles en 2014. Puis Amédi Coulibaly et les frères Kouachi, terroristes de Charlie Hebdo et de l'Hypercacher en 2015. Tous sont de jeunes délinquants français issus de l'immigration et de familles fragilisées, vivant dans des banlieues sensibles et dans la précarité, avec un sentiment exacerbé d'exclusion et d'humiliation. Leur réponse ? Le djihad, à l'étranger d'abord, du Pakistan au Yémen, avant de passer à l'acte contre la France. Mais ces dernières années, les chemins menant au djihad se diversifient. La France découvre des jeunes en crise d'identité, issus de la classe moyenne et radicalisés en quelques mois. Beaucoup sont même des convertis sans aucun casier judiciaire. Il y a des hommes que les recruteurs de Daesh sur Internet et dans les quartiers ont convaincus de partir combattre en Syrie et en Irak, aux côtés de musulmans opprimés. Il y a aussi un tiers de femmes. Mais pour certains de ces djihadistes, comme cette convertie nantaise arrêtée fin 2017 dans le nord de la Syrie, c'est la désillusion.
On a tous rêvé d'un espace où on serait libre de pouvoir vivre notre religion à notre aise. Et c'est ça qu'on est venu rejoindre. On n'est pas venu rejoindre des gens qui versent le sang.
Selon le ministère de l'Intérieur, près de 300 revenants, des majeurs et mineurs français, sont aux mains de la justice. Empêcher le prosélytisme en prison, voici justement l'une des 60 mesures présentées en février et que vous avez orchestrées, Muriel Domenac, spécialiste de la prévention de la radicalisation auprès du Premier ministre. Mais il apparaît très difficile d'empêcher l'État islamique, même dépossédé de son territoire, d'étendre son influence dans la clandestinité.
Muriel Dominac, Sophie Malibaud de RFI, Christophe Ayad du journal Le Monde nous ont rejoints. Alors, 60 nouvelles mesures depuis février dernier dans un dispositif national appelé Prévenir pour protéger. Mais vous, vous disiez dans une tribune il y a un an, il n'y a pas de baguette magique pour lutter contre la radicalisation en France, en Europe ou dans le monde. Alors, en quoi ce plan sera plus efficace que les deux précédents? Et est-ce qu'on est toujours, sur certains aspects, au titre de l'expérimentation, ou est-ce qu'on a vraiment avancé sur ces problématiques?
D'abord, c'est le premier plan spécifiquement consacré à la prévention de la radicalisation. Les deux précédents formaient une espèce de continuum entre la lutte antiterroriste et la prévention de la radicalisation. Ici, cette politique nouvelle qui est la prévention de la radicalisation trouve un cadre spécifique avec un élargissement de son champ à l'amont, c'est-à-dire à l'école, à l'aval, c'est-à-dire à la prison. Ensuite, on a appris de nos tâtonnements, parfois de nos échecs, mais aussi de nos succès, parce qu'il faut écouter nos défaites, mais il faut aussi écouter nos victoires.
C'est quoi les défaites, Mme Domenac ?
Il y a eu des expérimentations qui n'ont pas produit des résultats. Évidemment, on pense aux unités dédiées en détention. On pense aussi au centre dit de déradicalisation de Pontourny, qui avait essayé...
Qui a fermé, depuis...
Exactement, qui a fermé...
Qui accueillait donc des volontaires.
Qui accueillait des volontaires et sur un mode de prise en charge collective. Donc...
Non, je voudrais vous demander déjà, même avant qu'on aille plus loin, Muriel Domenac, comment est-ce que vous définissez la radicalisation ? Quelle est votre définition ?
La radicalisation, c'est un processus qui associe une idéologie extrême avec un risque de basculement vers la violence. Donc trois éléments. D'abord, c'est un processus. Après, il y a un élément d'extrémisme. Mais ce qui constitue le risque d'un point de vue sécuritaire, c'est la potentialité de basculement vers une action violente. Donc ce sont ces trois éléments. C'est ce qui conduit en fait au passage à l'acte, et c'est la définition du sociologue Farhad Khosrokhavar qui est retenue en France mais également chez nos principaux partenaires. Le terme de radicalisation s'est installé dans les sciences sociales, s'est installé dans la politique publique. Il y a maintenant donc une nouvelle politique publique qui est la prévention de la radicalisation. C'est le terme de déradicalisation qui est contesté et aujourd'hui remis en cause.
Comment est-ce qu'on va distinguer entre un certain degré de rigorisme, de fondamentalisme et du radicalisme? Je pense par exemple à l'exemple de cet imam de Marseille, l'imam Doudi, qui maintenant est en bonne voie d'être expulsé pour des prêches dits radicaux. Son avocat dit, mais il ne prêche pas le terrorisme, il ne menace pas de tuer des gens. Comment est-ce qu'on fait pour, à ce moment-là, traiter ce type de cas?
L'avocat est dans son rôle, les services de sécurité sont dans leur rôle, et l'appréciation qui est faite de l'effet, de l'impact de son discours, c'est qu'il légitime la violence, et c'est ce passage à la violence qui, évidemment, constitue le risque à la fois pour notre sécurité, pour notre cohésion sociale, parce que ce qui importe dans la radicalisation et donc pour la prévention de la radicalisation au sens large, c'est de contrer ce qui constitue une menace pour notre sécurité, mais aussi pour notre cohésion sociale. Donc cette politique, si vous voulez, elle doit articuler une logique sécuritaire, mais aussi une logique sociale. Et c'est toute la difficulté, c'est d'ailleurs toute la nouveauté de cette politique que nous n'avions pas en France avant 2014, que d'articuler une logique sociale et une logique sécuritaire, parce que précisément, la radicalisation fait peser une menace à la fois sur notre sécurité et sur notre cohésion sociale.
Alors, Madame Donnac, si vous voulez bien, revenons sur la question des prisons. Vous avez parlé des choses qui n'avaient pas trop bien marché, dont vous aviez tiré des enseignements. Il y a aujourd'hui 512 personnes qui sont détenues pour un délit ou un crime lié au terrorisme islamiste en prison. On décompte aussi plus de 1100 détenus radicalisés. Si j'ai bien compris, dans les nouvelles mesures, vous revenez vers des unités dédiées, c'est-à-dire que vous allez regrouper les prisonniers radicalisés, alors que ça avait été abandonné. et parce que c'était, selon l'ancien garde des Sceaux de l'époque, Jean-Jacques Urvoas, un échec. Alors pourquoi, il y a quelque chose qu'on ne comprend rien, pourquoi ce retour en arrière et pourquoi ces unités, en quelque sorte, dédiées pour ces prisonniers-là?
Ce n'est pas un retour en arrière, c'est un retour d'expérience sur le passé, c'est-à-dire ce qui a posé problème dans les unités dédiées, c'était que finalement les personnels n'étaient pas encore bien formés, les lieux dans lesquels elles étaient mises en place étaient sans doute pas assez sécurisés, on n'avait pas encore le renseignement pénitentiaire à l'époque, donc si vous voulez, le principe de la séparation qui avait présidé aux unités dédiées
par rapport à l'ensemble de la, de la population carcérale,
par rapport au reste de la population
pour carcérale, éviter le prosélytisme,
d'étanchéiser pour éviter le prosélytisme est retenu pour les détenus radicalisés, qu'ils soient condamnés ou prévenus pour des faits de terrorisme ou qu'ils soient des détenus de droit commun radicalisés parce que, comme vous le disiez, on a 500 un peu plus détenus et prévenus terroristes, mais plus de 1100 détenus de droit commun considérés comme radicalisés. Donc le principe de séparation des détenus radicalisés est retenu, simplement c'est les modalités de prise en charge qui évolue avec d'abord une phase d'évaluation et ensuite une phase de prise en charge. Et c'est ceci qui est nouveau dans le plan qui a été annoncé le 23 février. C'est-à-dire que non seulement on étend les capacités d'évaluation avec trois nouveaux quartiers d'évaluation de la radicalisation.
Pour être précis, ils sont évalués pendant 4 mois et en fonction de ça, on voit leur niveau de radicalité. Et comment on procède pour évaluer ?
Muriel Domenac, moi j'enchaîne aussi. Comment vous voulez faire avec des gens dont la dissimulation, par exemple, est un des instruments, un des credos complètement légitimes ?
Mais comment voulez-vous ne pas faire avec des gens qui présentent un risque
mais
pour la société?
Mais je ne dis pas qu'il ne faille pas faire, mais la question
donc,
c'est comment on fait.
Comment
ne pas faire et rester à une logique strictement répressive consistant à uniquement les placer en détention et les empêcher de nuire? Il faut absolument développer et affiner une prise en charge qui commence par une évaluation professionnalisée, donc avec des professionnels qui sont formés, maintenant massivement de manière pluridisciplinaire.
Alors quels sont leurs profils de ces professionnels? Ce sont des chercheurs, des sociologues, des psychiatres, des...
C'est d'abord le personnel de l'administration
pénitentiaire.
Moi, ce qui me frappe beaucoup lorsque je me rends dans des établissements pénitentiaires, c'est la montée en puissance des personnels, des surveillants pénitentiaires, des intervenants à la fois éducatifs, sociaux, des référents cultuels. L'aumônerie en prison a fait des progrès considérables. Donc il y a une montée en puissance de ces personnels, d'abord parce que ils se sont acculturés au travail en commun, au travail pluridisciplinaire, et puis parce qu'ils ont été formés.
Oui,
l'autre élément qui est important dans ces quartiers de prise en charge de la radicalisation, c'est que s'agissant des plus dangereux, les deux nouveaux quartiers de prise en charge de la radicalisation vont être mises en place à Condé-sur-Sarthe et Vendin-le-Vieil dans des établissements qui sont des maisons d'arrêt sécuritaires, c'est-à-dire où à la fois la géographie des lieux et les personnels sont ce qu'on a de plus sécuritaire en France. Donc,
mais Muriel Domenac, face au phénomène de groupe, puisqu'on a décidé de regrouper les détenus, est-ce qu'il n'y a pas un risque, enfin le risque, j'imagine qu'il a été envisagé, mais d'auto-entraînement, de solidification du groupe, d'émergence de leaders
et de nouvelles cellules
face à des institutions qui sont finalement assez illégitimes au sein de ce groupe. C'est-à-dire que vous pouvez amener un imam en prison face à des gens, enfin en prison ou ailleurs d'ailleurs, face à des gens qui vous disent de toute façon tous ces imams sont vendus à un État qui lui-même n'a pas lieu d'être et mécréant. Bon,
je vous dis pas que c'est facile. Je ne vous dis pas non plus que d'autres y parviennent parfaitement. Je vous dis simplement que c'est nécessaire. Et donc, le risque de surradicalisation auquel vous faites référence, on le connaît bien, pour l'avoir expérimenté.
Notamment avec des attaques contre des
bien entendu.
Pénitentiaires.
Mais c'est le principe même de nos ennemis djihadistes que de nous intimider et de stériliser l'action publique.
Mais est-ce que ce n'est pas l'ensemble du personnel carcéral qu'il faut former à ce type de comportement qui est parfois totalement imprévu, pas détectable, comme on le disait tout à l'heure? Vous parliez d'un processus. Quand il y a des gens moins radicalisés qui en fréquentent d'autres qui le sont beaucoup plus, est-ce que le risque, c'est pas de faire remonter le niveau de radicalisation?
La contagion, c'est ça.
Finalement. Bien entendu, le risque de contagion, il nous amène à retenir non pas un principe de regroupement, mais un principe de séparation, de façon à pouvoir évaluer et prendre en charge les plus dangereux, ensuite en ventilant la prise en charge entre les quartiers pour détenus les plus violents, qui font évidemment l'objet de la surveillance la plus serrée et du suivi le plus individualisé.
Ça veut dire qu'ils seront à l'isolement ? En fait,
ça veut dire que un certain nombre, le cas échéant, peuvent être à l'isolement, bien entendu. Donc ça pèse évidemment sur les capacités, mais c'est nécessaire. Vous avez un renseignement pénitentiaire qui est monté en puissance considérablement, et c'est à saluer. Vous savez que certaines des tentatives récentes ont pu être entravées, notamment grâce au renseignement pénitentiaire. Donc il y a évidemment aucun triomphalisme au sein des autorités. Il faut aussi entendre ce qui commence à fonctionner, notamment le renseignement pénitentiaire. Mais la tâche est immense. Hein. Vous avez vu que le président de la République a annoncé cette semaine un plan pour l'ensemble du système pénitentiaire. Chacun en a conscience. L'enjeu dans le milieu pénitentiaire est considérable.
Madame Devenac, aujourd'hui en prison, il y a des gens qui sont rentrés de Syrie ou d'Irak. Il y a des hommes, des femmes et pas qu'en prison d'ailleurs, hein, parce que certains ont un suivi administratif ou judiciaire, et notamment 59 enfants qui sont également de retour. Vous dites, il n'y a pas de danger, il n'y a pas de panique, mais est-ce que vous comprenez qu'il y ait une inquiétude légitime? Parce que comment on fait tourner la page à toutes ces personnes par rapport à ce qu'elles ont vécu sur le terrain dans ces territoires qui étaient tenus par le groupe État islamique?
Moi, je dis ni déni, ni panique. Je ne dis pas il n'y a pas de danger. Au contraire, je dis ni déni, ce ne sont pas des enfants comme les autres, ni panique, ce ne sont pas des grenades prêtes à exploser. Donc, tout l'enjeu, c'est justement d'anticiper leur prise en charge et de mettre en place un suivi qui articule logique sociale et sécuritaire, à la fois dans leur intérêt, et là, dans l'intérêt de la société.
On ne tâtonne plus, on a vraiment des moyens qui ont été expérimentés, qui permettent d'avancer, de faire évoluer la radicalisation ou l'embrigadement, notamment de ces enfants.
On n'a pas de baguette magique, ni pour ces enfants, ni pour le reste des jeunes radicalisés. Simplement, on apprend de plus en plus vite de ce qu'on met en place. Il y a un dispositif que la France est le seul pays à avoir anticipé. En mars 2017, un dispositif interministériel de suivi de ces enfants avec une évaluation médicale, psychologique, puis un suivi évidemment sous le contrôle du juge des enfants, parce que c'est le droit de la protection de l'enfance dans notre pays. Et ce dispositif, on l'a renforcé le 23 février, lors de l'annonce du plan de prévention de la radicalisation. Le Premier ministre a signé une circulaire qui est publiée sur Légifrance, qui renforce la prise en charge de ces enfants dans le sens d'un développement de la spécificité du suivi qui leur est apporté. Donc suivi au long cours, c'est très important.
Sur plusieurs années.
Ça signifie que sur plusieurs années, les préfets, en lien avec les différents services
justice
et tout le contrôle évidemment du juge des enfants pour ceux qui font l'objet d'une mesure d'assistance éducative vont suivre la manière dont ces enfants évoluent.
Nous allons nous interrompre quelques instants, si vous voulez bien, Muriel Domenac, et on se retrouve. Retour en direct avec RFI, le journal Le Monde. Notre invitée est Muriel Domenac. Elle a été l'architecte du nouveau plan pour prévenir la radicalisation qui a été présenté le 23 février dernier par le Premier ministre Édouard Philippe. Muriel Domenac, je vous propose d'écouter ce que disait le 13 novembre dernier le président Emmanuel Macron à l'occasion d'un déplacement à Tourcoing, déplacement consacré à la politique de la ville.
La radicalisation s'est installée et a touché plusieurs milliers de nos jeunes ou de nos moins jeunes. Et elle doit nous conduire aussi à nous remettre en question, de manière indispensable, parce que ceux qu'on appelle les radicalisés, ils sont nés sur le sol de la République. Ils ont grandi dans notre République. Ils ont été à l'école de la République. Et ils sont parfois partis combattre aux côtés de Daesh pour tuer nos enfants. Ils sont prêts à commettre le pire sur le sol de la République. Cette radicalisation, elle s'est installée parce que la République a démissionné.
Mais quand on entend là, le président de la République, j'ai envie de vous poser cette question. C'est comment la République aujourd'hui se remet en question face à cette question justement de la radicalisation? Est-ce que ce plan dont vous avez été l'architecte, je le rappelle, peut suffire? Il n'est pas très présent dans ce plan, dans ces mesures, vous l'évoquiez, hein, tout cet aspect social, économique, etc., qui souvent est présenté comme des exutoires de ces jeunes qui partent faire le djihad en Syrie ou en Irak.
Il n'y a pas de causalité unique. On s'est beaucoup interrogé, et ceux d'entre nous qui avons été en contact avec des jeunes radicalisés, on a pu l'apprécier. Il y a une pluralité de causes. Il y a une causalité socio-économique, c'est évident. Il y a une causalité religieuse, c'est évident. Il y a une causalité sectaire, c'est évident. Il y a une causalité psy, c'est évident également. Et ces causalités, elles sont présente chez la plupart des jeunes radicalisés dans une proportion variable.
Mais je reviens à mes questions. Comment la République se remet en question par rapport à ces parcours-là?
Il y a un enjeu qui est un enjeu de politique générale. Il y a des enjeux de prévention au sens large qui impliquent la politique de la ville, qui impliquent évidemment l'organisation d'un islam de France. Et évidemment, toute une réflexion est en cours actuellement. Il y a un enjeu qui porte sur notre politique d'éducation au sens large, sur notre politique pénitentiaire au sens large. Donc la prévention de la radicalisation en tant que politique publique, elle se concentre sur la manière dont on peut détecter et prendre en charge, mais aussi déconstruire le discours de ceux qui sont le plus vulnérables à la radicalisation.
Selon l'analyse que l'on fait du phénomène, que ce soit radicalisation de l'islam ou islamisation de la radicalité, le débat est bien connu, les réponses sont différentes. C'est l'islam qui doit être réformé ou c'est la société qui doit se réformer ?
La polémique radicalisation de l'islam, islamisation de la radicalité, c'est une polémique bien française qui fait partie de notre dramaturgie nationale.
Vous ne pensez pas que l'analyse dépend les solutions mises en place?
Mais je crois que c'est les deux, et donc de la compréhension qu'il n'y a pas de causalité unique dépend notre capacité à déployer une réponse pluridisciplinaire.
Ce que j'aimerais comprendre, c'est qu'est-ce qu'on propose, non pas comme contre-discours, parce que le contre-discours, c'est préservons nos acquis, notre société libérale, notre démocratie, notre système éducatif, très bien. Mais cette idéologie que vous décrivez, elle est très puissante. Elle propose une sorte d'idéal. Qu'est-ce qu'on propose comme autre idéal? Et est-ce que c'est le rôle de l'État ou des politiques? C'est le rôle de qui de proposer un idéal dans une société où il n'y a plus d'idéal, à part éventuellement lutter contre le chômage?
C'est la responsabilité de la société dans sa totalité. La prévention de la radicalisation, c'est l'affaire de tous, et donc ça engage l'État qui doit se donner les moyens non seulement de la lutte antiterroriste, mais d'une politique publique de prévention de la radicalisation qui sache détecter, qui sache former.
Mais l'État, c'est pas lui qui va fabriquer un idéal. Donc est-ce que finalement on n'est pas condamné à ça tant que vous êtes dans une période de fin des idéologies, d'absence d'espoir, eschatologique, etc. qu'est celui que propose le djihadisme aujourd'hui.
Mais la société française a pas non plus explosé face à la radicalisation. Mmh. Parmi les scénarios du pire qu'on aurait pu redouter, moi j'étais à l'étranger à l'époque, mais on a eu peur à l'étranger de voir notre pays imploser, fracturé par le djihadisme, de voir nos compatriotes musulmans attaqués, attentés à leur intégrité physique. C'est pas ce qui s'est passé. Donc,
parce que ça, c'était l'objectif de la terreur.
Bien entendu, avec aussi l'objectif d'encourager une radicalisation réactionnelle, si j'ose dire, d'une autre partie de la société. Donc, écoutez nos défaites, écoutez nos douleurs, mais écoutez nos victoires aussi. On n'a pas si mal tenu. Donc il y a évidemment un projet de société, bon là j'ai envie de vous dire c'est au-dessus de it's above my pay grade, comme on dit en
anglais. Et heureusement que c'est pas à l'État de le produire. Enfin,
Et non seulement dans le sens où dans la hiérarchie de l'État, il y a plus élevé que moi pour concevoir un projet pour ce qui revient à l'État, mais c'est aussi la responsabilité de la société dans son ensemble. Et c'est la raison pour laquelle le contre-discours, il y a évidemment une responsabilité de l'État, mais il y a plus largement une appropriation par la société civile. Le contre-discours, c'est la société civile qui le fait le mieux. Vous me montriez tout à l'heure Housewives of ISIS.
Le clip de la BBC, là.
Le clip de la BBC qui délégitime par l'humour le discours djihadiste. Il y a beaucoup de choses en France qui se font dans le contre-discours et qui ne sont absolument pas la responsabilité.
Le meilleur moyen de lutter contre la propagande, finalement, c'est tout de même aussi l'information. Est-ce que c'est pas un peu compliqué dans une société où on est là à rogner sur les dépenses dans tous les secteurs, l'information audiovisuelle, presse écrite, publique comme privée, etc., de mettre finalement d'élaborer ce qui pourrait vraiment mettre en échec toutes les théories du complot qu'on voit survenir dès qu'il existe un attentat, un incident quelconque? Est-ce que c'est pas un peu compliqué? Je veux dire, on fait des plans spécifiques, mais en réalité, il faudrait investir dans la formation, il faudrait investir dans l'éducation. Et on est dans une société qui réduit...
Il y a surtout un enjeu d'appropriation de ces problématiques de radicalisation dans l'activité de chacun à l'école. Ça fait partie de la mission générale de l'éducation nationale que d'instruire des futurs citoyens et effectivement d'éduquer aux médias et à l'information. Ça fait partie de ce que les professeurs doivent intégrer, que d'apprendre aux jeunes à l'école ce que c'est que l'information. L'essentiel leur vient, comme vous le savez maintenant, des réseaux sociaux, et donc il faut qu'ils apprennent le fameux clic droit qui permet d'identifier d'où vient une image. Tout ça, c'est essentiel. Prévenir la radicalisation induite par le numérique, c'est ce que l'éducation nationale doit s'approprier dans sa mission régulière. Donc il y a vraiment un enjeu d'infusion de cet objectif de prévention de la radicalisation par le corps social et par l'école en premier lieu. C'est la raison pour laquelle le plan de prévention de la radicalisation insiste autant sur l'école.
Mais alors, sur le rôle de l'État, depuis 2015, il existe au sein ce site du ministère de l'Intérieur, Stop au djihadisme, et il propose notamment depuis 2015 un certain nombre d'informations, mais aussi des clips, des vidéos pour lutter contre l'embrigadement. Alors, quand on sait la défiance pour tout ce qui vient du sommet de l'État, enfin, en tout cas de l'État, par qui sont regardées ces vidéos, et est-ce que vous avez un retour sur leur efficacité ?
On a un retour sur la diffusion de ces clips, et on considère que près de 90% de la population, par exemple l'an dernier, lorsque la campagne qui s'appelait « Toujours le choix » a été diffusée, on considère que 9 Français sur 10 ont été exposés soit à la télévision, soit à la radio, soit sur... 9 Français sur 10 ont été exposés à cette campagne. Après, se pose la question de l'impact de ce type de contre-discours institutionnel. Et là, il faut faire la différence entre ce qui relève de l'information qui touche les familles, la communauté éducative, parfois les intervenants sociaux et qui permet de donner des informations et de les armer en réponse à des jeunes radicalisés et l'impact sur les jeunes radicalisés eux-mêmes. Et évidemment, plus le jeune est radicalisé, moins ce type de contre-discours porte. Alors, on l'a évidemment compris, parce que on tâtonne, mais quand on dit qu'on assume tâtonner, ça veut dire aussi qu'on arrive à ajuster notre action. Et donc, on appelle depuis plusieurs mois au développement d'un contre-discours, un contre-récit.
Il y a l'expertise en France là-dessus. Il y a réellement, parce que il y a des filières de criminologie, mais il n'y a pas de filière à l'université de filière radicalisation.
Il y a une expertise en France qui
se développe. Un peu neuve.
Très vite, j'étais à Toulouse, par exemple, avant-hier, où un sociologue qui s'appelle Séraphin Alava a bénéficié de financements européens. C'est assez significatif pour le signaler, pour étudier le discours djihadiste et développer des projets d'appui à un contre-discours. Il y a tout à fait une expertise sociologique. On a l'une des meilleures écoles de sociologie, vous le savez. On a d'excellents journalistes qui, d'ailleurs, concourent à déconstruire aussi le conspirationnisme, les fake news. Vous avez une association de journalistes qui s'appelle La Théorie du Complot. Vous avez une association de journalistes, par exemple, qui s'appelle Entre les Lignes, qui fait un travail extrêmement utile de déconstruction du discours conspirationniste. Et puis, il y a toutes ces initiatives qu'on dirige absolument pas sur les réseaux sociaux qui encouragent à signaler, à discréditer. Il y a aussi ce travail, par exemple, Lettre à Nour de Rachid Benzine qui a été montré au Théâtre Antoine récemment, qui circule à travers toute la France et qui montre un dialogue entre un père et une jeune fille radicalisée. Il y a ce jeune à Marseille qui intervient aussi dans les établissements scolaires pour déconstruire une lecture d'exclusion.
On va revenir d'ailleurs sur
cet exemple. Il y a cette pièce Djihad d'Ismaël Saïdi qui a été vue. Depuis 2015 en Belgique et 200 000 jeunes Belges l'ont vue. Elle a été déclarée d'utilité publique d'ailleurs par nos amis belges et puis 300 000 jeunes ici en France. Donc il y a ces initiatives qui fleurissent et qui sont bien mieux mises en œuvre par d'autres que nous.
Muriel Domenac, comme vous le disiez, ça passe beaucoup par les réseaux sociaux, les phénomènes de radicalisation et par l'échange interpersonnel. À votre avis, à vous, jusqu'à quel point, jusqu'à quel degré on doit rentrer dans l'intimité des gens pour les repérer avant un éventuel passage à l'acte? Jusqu'à quel degré de surveillance? Puisqu'on a tous les instruments, si on veut. Je veux dire, aujourd'hui, les services français de renseignement ont les moyens de scanner à peu près tous les échanges e-mails, électroniques et autres. Jusqu'à quel point on doit le faire? Sans menacer l'état de droit, la vie privée, etc.
Évidemment, on est une société de liberté et il ne s'agit pas d'entrer dans la tête des gens, si vous voulez essayer.
Non, dans leur tête, non, mais dans leur boîte mail, oui.
Ce film Minority Report, qui, vous vous souvenez, au début des années 2000, essayait de préempter toute idée d'agir avant même qu'elle soit conçue.
Non, mais ça c'est de la science-fiction. Mais par contre, je parle des échanges interpersonnels électroniques.
Vous savez, l'enjeu, il est moins d'intrusion dans la vie des gens que d'efficacité du renseignement. Ça, c'est pas ma partie, mais je crois pouvoir dire qu'on a beaucoup progressé et de mobilisation des acteurs de l'Internet pour entraver et retirer la propagande djihadiste. Et ça, c'est pas de l'intrusion dans la vie des gens. Ça, c'est un enjeu de responsabilité sociale des acteurs de l'Internet. Alors, c'est le sens de la démarche que le président de la République conduit avec la première ministre britannique depuis l'été dernier, d'engager les acteurs du net dans une démarche exigeante, ce qu'ils ont su faire pour les contenus pédopornographiques, c'est-à-dire un retrait automatisé de plus de 90% des contenus.
Et est-ce que c'est le cas aujourd'hui sur les contenus radicaux djihadistes ?
Oui, ils ont atteint aujourd'hui, en termes de retrait des contenus terroristes, le même niveau que pour les contenus pédopornographiques. L'enjeu aujourd'hui, c'est le délai de ce retrait. On parle de d'heures dorées, de golden hour. Ça vient d'un constat britannique, c'est-à-dire la première heure pendant laquelle l'impact est le plus significatif. Ils ont énormément progressé, il faut le signaler, et je dois signaler aussi qu'ils se sont engagés dans le soutien des acteurs de la société civile qui sont prêts à s'engager dans des actions de contre-discours. Donc former, comme on fait une vidéo sur YouTube par exemple, mais également comment atteindre le plus de gens possible dans la diffusion de contenu. Donc les acteurs du net, les engager dans une démarche exigeante.
Alors au-delà du net, vous parliez tout à l'heure de ce comédien, hein, Salman Reda, qui présente une pièce dans les écoles du sud de la France. Là, ne laisse personne te voler les mots. Mm-hmm. Alors voici comment il présente la charia, ces lois qui, selon l'interprétation de djihadistes, mais aussi de certaines républiques islamiques, permettent de couper les mains des voleurs ou lapider les femmes adultères. Lui, il a choisi la définition d'un islamologue qui étudie l'émergence du Coran dans la société du 7e siècle. On l'écoute.
Vous savez ce que ça veut dire le mot charia ? Aujourd'hui, on le traduit par la loi islamique, l'ensemble des règles que contiendrait l'islam. Et à l'époque du 7e siècle, la charia, c'est ce chemin qui t'amène à des endroits où certaines années, quand il a bien plu, l'eau, elle peut sortir directement du sol.
Alors, on l'a bien compris, Muriel Le Ménac, vous estimez que ce genre d'intervention est efficace, hein, et que c'est une façon aussi de construire un contre-discours, de lutter contre l'embrigadement. Mais ce genre d'intervention dans les écoles, où la laïcité est la règle, est-ce que c'est le lieu ? Et est-ce qu'il faut faire plus au-delà de ces initiatives personnelles sur ces questions d'interprétation religieuse, en quelque sorte ?
C'est une interprétation des textes qui s'inscrit dans un contexte séculier. C'est-à-dire, c'est absolument pas un prosélytisme religieux avec un discours de transcendance, etc. C'est une lecture profane des textes. Et oui, ça fait partie de la culture générale qu'il faut développer pour promouvoir une lecture qui soit compatible avec les lois de la République. Donc, c'est évidemment un discours qui porte et qui intéresse d'ailleurs les jeunes, qui vous intéressent puisque vous l'avez retenu et vous avez bien fait. Encore une fois, le rôle de l'État, c'est d'encourager ce type d'intervenants, absolument pas d'en tirer les ficelles ou de leur écrire leur texte.
Hein. Il y a eu des mesures pour la formation des imams. Je voudrais savoir où est-ce que ça en est de votre point de vue. Est-ce que c'est vraiment un levier important de la prévention ? Il y a une coopération avec le Maroc. Comment ça se passe ? Est-ce que c'est quelque chose que vous encouragez, la formation des imams ?
C'est évidemment une partie qui s'inscrit en interconnexion avec la prévention de la radicalisation. C'est un sujet qui est étudié dans le cadre du dialogue sur le développement d'un islam de France. Moi, c'est pas ma partie. Vous voyez ce qui...
Vous savez pas si ça a produit des résultats ?
La formation des imams ?
Si il y a plus d'imams éduqués qui enseignent le Coran hors du canal salafiste.
Là, on parlait avec le jeune de quelqu'un qui n'est pas un imam. Hein.
Oui, c'est tout à fait. Mais moi, je vous parle des imams.
C'est une interprétation profane des textes.
C'est un comédien. Oui, mais moi, je parle des imams.
Les imams, la formation des imams, à la fois la formation générale des imams et en même temps la manière dont l'islam de France peut être organisé, c'est un chantier qui est en cours. Donc moi, je ne peux pas m'exprimer sur ce chantier. Ce dont je peux vous parler, c'est du travail pluridisciplinaire avec des imams qui est développé dans plusieurs lieux en France et qui semble intéressant. Donc, si vous voulez, l'implication et le travail de certains référents cultuels en prévention de la radicalisation, ça porte des fruits qui nous paraissent intéressants. Le dispositif de suivi de jeunes radicalisés sous main de justice qui s'appelle RIVE, qui a été expérimenté en Île-de-France et que la ministre de la Justice a proposé d'étendre, inclut un imam comme référent cultuel. Et c'est intéressant, oui, de faire travailler un imam formé à la prévention de la radicalisation avec un éducateur et un intervenant social.
Encore faut-il que ces jeunes radicalisés reconnaissent l'autorité de cet imam. Hein. Mais je voulais rester sur le domaine de l'éducation et vous proposer ce document là chez nos voisins belges dans les écoles, un professeur d'histoire des religions intervenait dans des ateliers de prévention encore il y a peu. Ce jour-là, on le découvre dans un jeu de rôle face à une élève. Il interprète un recruteur djihadiste.
Comment ça va, ma sœur?
Ça va bien.
Alhamdoulilah. Ça va, alhamdoulilah. La prière, ça va en ce moment?
J'ai arrêté pour le moment.
T'as arrêté?
Oui.
Comment ça se fait?
Je sais pas, je suis partie un peu. J'en avais marre.
T'as vu ce qu'ils ont fait en Afghanistan? T'as vu comment ils nous ont bombardés, ils ont colonisé? T'es d'accord avec moi?
Oui, je suis d'accord.
Alors moi, ce que je te propose, c'est que tu retrouves le vrai islam. Un endroit où tu vas prier, les gens ils vont te pousser à prier, tu vas obéir à Dieu.
Qu'est-ce que je vais faire là-bas en fait?
Toi tu es une fille, machallah, on va pas t'envoyer au combat. Toi tu vas pouvoir soigner les combattants et ça sera la même récompense que les grands combattants de l'islam. Et là tu vas vraiment faire plaisir à ton Seigneur.
Je pourrais peut-être y réfléchir.
Mais ne réfléchis pas trop, ma sœur, parce que tu sais pas quand la mort elle va frapper. Wallah, je vais pas te mentir, si tu meurs dans cet état-là, tu vas en enfer.
Christophe.
Alors c'est intéressant parce que ce qu'on vient d'entendre, ça se passe en Belgique. En France, c'est pas possible. C'est pas possible de parler de religion dans une école. Est-ce que en France, il n'y a pas quand même un frein à la compréhension du djihadisme et au travail sur le phénomène djihadiste, qui est une laïcité qui fait que le fait religieux échappe totalement à l'État et à ses représentants?
Alors d'abord, ça en France, c'est possible, ça existe.
Dans les écoles?
Dans les écoles, il y a du théâtre réactionnel de situation, ça s'appelle. C'est un terme un peu savant. Il y a une compagnie, par exemple, qui s'appelle Réactif Théâtre, qui met en scène un parcours de radicalisation et qui ensuite invite les jeunes à monter sur scène pour empêcher leurs camarades se laisser embrigader. Et ce qui est assez intéressant, c'est que au début la scène, le jeune est un petit peu tétanisé, et puis en fait il se prend au jeu, et effectivement très vite le jeune déploie un contre-récit religieux.
Non, mais
effectivement, c'est assez intéressant, et personne ne lève la main pour dire attention, ligne rouge, vous allez subir le feu sacré.
Donc il ne faut pas non plus caricaturer de parler de religion à l'école. C'est pas considéré comme légitime, c'est pas très légitime.
Non, je vous dis, ce type de situation, j'y ai assisté, ça se fait. Le jeune à Marseille, il parle de quoi sinon de religion? Ce qu'on fait pas en France, c'est un discours religieux sur la religion. Mais un discours profane sur la religion, ça se fait de plus en plus. L'enseignement du fait religieux, il existe.
Non, on a évolué sur ces questions, c'est vous dire par rapport à ce qui pouvait se faire il y a 2-3 ans
Moi, je crois qu'on est moins crispés.
On est moins crispés.
On ne le dit, y compris à l'étranger. Moi, j'ai servi à l'étranger, à Istanbul en particulier.
On est moins crispés parce qu'on pense que c'est plus efficace.
Bah, on est moins crispé parce que dans le monde réel, les choses sont complexes, qu'il faut admettre la complexité et que c'est beaucoup moins clivé et on est beaucoup moins crispé qu'on ne le dit en réalité. Moi, à Istanbul, j'avais organisé avec beaucoup de Français d'origine turque d'ailleurs des nuits du Ramadan où à la fois on faisait pas, il n'y avait pas de prière dans les lieux de la République et en même temps, on admettait que le Ramadan soit un moment particulier qui donnait lieu d'ailleurs à des expressions sur la laïcité, c'est ça qui était intéressant. C'était un moment à la fois de partage et d'interculturalité.
On arrive au bout de cet entretien. Merci beaucoup. Vous avez parlé d'Istanbul parce que vous avez été en poste 3 ans en Turquie. Je vous remercie, Muriel Domenac, d'avoir accepté notre invitation, d'avoir répondu à nos questions, à celles de Christophe et de Sophie. Merci à tous pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine.
RFI, la radio du monde. Si tu eres mi carnal, déjame ser tu ranchito. Si tu eres mi nopal, déjame ser tu taquito. Pa' llenar la pancita, mamá, pancita de suadero. Con todo cebollita, mamá, como no dejareo. Por la vieja sonora, la marea va subiendo. Por la vieja sonora, caen gotas a montón. Sopita de camarón, se la lleva la corriente. Sopita de camarón, la marea va subiendo. Subiendo mamá, la marea va subiendo mamá, va subiendo al que marea. Si tú eres mi carnal, déjame ser tu ranchito. Si tú eres mi nopal, déjame ser tu taquito. Te pito fayuca, te porocha, capichu, me trae a taquito suadero, esquina chicharrón. Subiendo mamá, va subiendo la marea mamá, va subiendo al que marea. Vieja sonora, la marea va subiendo. Por la vieja sonora caen gotas a montón. Sopita de camarón, se la lleva la corriente. Sopita de camarón, la marea va subiendo. Subiendo mamá, la marea va subiendo mamá. Va subiendo la marea mamá, va subiendo ay que marea. Jamaica sonora, güerito de acera, de la mera mata de chucho guerrero, sincero rincón. Subiendo mamá, la marea va subiendo mamá, va subiendo ay que marea. Subiendo mamá, la marea va subiendo mamá, va subiendo ay que marea. Sonora, güerito de acera, de la mera mata de chucha guerrera, sincero rincón. Subiendo mamá, la marea va subiendo mamá.